Vous êtes bien dans notre chronique Underscore. Préparez vos manettes et faisons cette semaine une partie de game à Paris. Attention, très, jouez.
Jouez.
Play.
Yes, bonjour Enya.
Salut Sissi, salut Mumu.
Bonjour Mumuman.
Bonjour Sissi, bonjour Enya.
Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui de l'actualité numérique?
Oui. Oh ben oui, tout le temps.
Tout le temps. Et puis, une petite pause musicale, parce qu'après, Enya nous emmène où?
À Paris. Bon, bah, c'est pas très loin, hein. C'est pas Los Angeles, faut pas rêver, mais quand même, voilà.
Donc, tu vas nous faire un petit retour sur Paris Game Week.
Oui, et il y a eu beaucoup de choses, alors on va essayer de condenser un peu tout ça, hein, parce que...
Sans oublier notre agenda, et pour terminer, astrologique. Mais commençons par l'actualité.
Actu. Alors, Enya, tu voulais nous parler d'un...
D'une petite news, rapidement, effectivement, parce que donc, déjà, à Paris Games Week, il faut savoir que Tomb Raider a été mis à l'honneur, puisque c'était les 20 ans de Tomb Raider.
Ouais.
Et il y a eu donc un record du monde de cosplay qui a été réalisé à la Paris Games Week, qui a été gagné, en plus, d'ailleurs. Donc, chaque Tomb Raider déguisé homme ou femme, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il y avait même des hommes déguisés en Tomb Raider, j'ai assez rigolé. Donc, plein de Lara Croft qui se baladaient à droite à gauche. Et ils ont rapporté chacun un petit goodies de l'univers de Tomb Raider. Et en passage, j'ai vu une news qui vient de tomber du site source Kotaku. Un employé donc, qui travaillait sur Tomb Raider aurait leaké donc, le prochain Tomb Raider. Donc il y a bien un prochain Tomb Raider.
Woohoo!
Qui s'appellerait Shadow of the Tomb Raider. Donc voilà.
On a hâte de voir ça.
Ouais.
Et puis un peu de nécrologie.
Bah oui, hein, parce que malheureusement ça arrive. Donc Keith... Ulf, je ne sais pas si ça se prononce bien, un des créateurs de Next Step qui vient de disparaître à l'âge de 52 ans. Donc il a créé quasiment toutes les icônes de l'OS, hein, Next Step.
Ne pleure pas.
Et une grande partie de l'interface graphique de ce qui est devenu Mac OS X maintenant.
Oui.
Et même la petite balle multicolore qui tourne quand il est occupé.
La petite balle
D'accord.
énorme.
D'accord, au passage, on dit plus macOS X hein, maintenant, c'est macOS.
Ah, c'est macOS.
Bon, et puis ouais. la belle monnaie recrute et a besoin de vous?
Oui, on vous a déjà parlé de la belle monnaie, donc la monnaie locale citoyenne du Valentinois, et qui d'ailleurs s'étend, puisque maintenant elle arrive à créer entre autres. Et donc une campagne de financement participatif a été mise en place pour vous proposer de participer à ce projet en soutenant le recrutement d'une nouvelle personne parce qu'ils ont pour l'instant une permanente qui est à temps plein et puis ils avaient deux services civiques qui viennent de trouver un emploi donc du coup ils sont plus là et donc du coup il faut mettre les bouchées doubles.
Donc voilà, il y a une plateforme de financement participatif on peut...
Sur Eloasso, voilà, vous pouvez ajouter des billes.
Et plus de la moitié des requêtes des utilisateurs Firefox sont chiffrées.
En effet, les utilisateurs de Firefox ont dépassé les 50% de requêtes en HTTPS, donc les versions sécurisées du protocole HTTP, alors qu'elles n'étaient que 40% en décembre 2015. Ça reste une mesure échantillonnée hein, pour ceux qui ont activé l'option télémétrie dans Firefox, qui renvoie des infos sur l'utilisation, et sur une seule journée. Donc c'est vraiment juste comme ça, mais c'est arrivé. Donc c'est un bon présage pour la sécurité, c'est quand même mieux. Et c'est l'occasion de mentionner le plugin HTTPS Everywhere de l'EFF qui force en fait le navigateur à utiliser la version sécurisée des sites qu'on utilise. C'est-à-dire si vous cliquez sur un lien et puis qu'il vous envoie sur HTTP sur twitter.com par exemple, et ben le plugin va détecter ça, il va hop, passer tout de suite en HTTPS.
Waouh, mais il y a un énorme trou dans Linux ?
Eh ben ça arrive, hein. Linux c'est fait par des humains, donc un trou de sécurité, un trou de sécurité vieux de 9 ans quand même.
Bah oui,
c'est pas mal.
Il faut bien qu'il pêche pour manger, un petit trou dans la glace.
C'est ça, il fait un trou dans la glace.
Et il fait du phishing.
Avec la cabane.
C'est ça.
C'est pas la cabane au Canada, mais presque. Donc un trou de sécurité de 9 ans vient d'être trouvé dans le noyau Linux.
D'après 9 ans quand même.
Ouais, bah oui, mais ça arrive. Hein.
Donc c'est un phishing en fait, quelque part, non?
Donc en fait, d'après les chercheurs, c'est probablement la faille d'escalade de privilèges la plus sérieuse à ce jour.
Je pense que c'est le collectif des mythes qui a fait le trou.
Oui, d'accord. Ok. Attends, tu vas rigoler quand tu vas savoir le nom. Donc c'est certainement la plus sérieuse à ce jour et elle est certainement déjà exploitée. Donc un utilisateur qui l'exploite donc peut devenir root en moins de 5 secondes.
Waouh.
Ouais, son nom Dirty Cow. Alors en anglais ça veut dire vache sale. Vient de la technique du copy and write, donc c'est OW qui donne cow en fait en anglais. Et en fait c'est une technique qui est utilisée pour économiser de la mémoire et du temps lorsqu'on crée des nouveaux processus, c'est-à-dire que plutôt que de copier toutes les pages mémoire pour les dupliquer en fait, on met une référence sur la même page et on dit si quelqu'un tente d'écrire, à ce moment-là, on la copiera et on changera la copie.
Mm.
Et donc, dans ce code-là, il y avait ce qu'on appelle une race condition, c'est-à-dire que en fait, le code pouvait parfois se tromper parce qu'il allait trop vite par rapport à ce qui était prévu, et c'est des choses qui ne doivent pas arriver, mais qui arrivent parce que le code est mal écrit. Donc, à vos patchs.
Donc, Atom Bang Bing, un énorme trou dans Windows.
Mais c'est apparemment, c'est la guerre, là.
Encore le collectif des mythes.
C'est ça, c'est la semaine, hein, balle au centre. Donc, des chercheurs viennent d'identifier un gros trou dans l'architecture même de Windows. Ils ont réussi à exploiter la table des atomes. En fait, c'est une table partagée permettant d'enregistrer des données pour éviter de les stocker plusieurs fois. C'est-à-dire, par exemple, une application va demander à Windows de garder en mémoire une chaîne de caractères comme « bonjour
ouais. »,
mais ça peut être bien plus long, et lui donner un identifiant, ce qu'on appelle un « handle ».
Qu'est-ce que tu parles bien, André ?
Merci. Et donc, une autre application qui ferait la même chose obtiendrait le même identifiant, puisque la chaîne est identique. Donc, ça permet de partager des données et d'économiser de la mémoire, en théorie. Sauf que ils se sont rendu compte qu'on pouvait aussi injecter du code malveillant par ce biais-là et obliger une autre application à l'utiliser, du coup. Alors, on peut noter que Xorg, le serveur graphique de Linux, a aussi un concept d'atome. Donc, à voir si c'est aussi...
On se demande s'il y en a pas un qui a vraiment pompé l'architecture sur l'autre, au final.
sauf que X11 est presque aussi vieux que Windows, si c'est pas plus, donc...
Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale et nous retrouver tout de suite après pour Paris Game Week.
Un croissant, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, Ultraside, j'espère que ça vous a réveillé parce que la chiptune 8, c'est de la balle. Donc voilà, c'était fait par Ultraside, donc un Atari qu'il a réalisé lors de la messe Fate. Mais
je
maintenant,
il n'y a pas du mix aussi Game Boy, mais bon,
il y a un petit quelque chose, ouais. Je crois. En tout cas, c'est du 8 bits. Et parlons maintenant de Paris Game Week.
Parlons de 8 bits, parlons aussi de jeux vidéo.
Ouais.
Donc oui, forcément. Eh bien oui, il faut savoir que la semaine dernière, le week-end dernier s'est passé la Paris Games Week.
Donc c'était la semaine du 27 au 31 octobre 2016.
Jusqu'au 1er, il y avait aussi le lundi. Si, ça a resté pas mal de jours quand même. Hein. Donc du coup, un énorme salon du jeu vidéo. Il faut savoir qu'il a été couplé aussi avec un autre salon qui était en dessous, qui était la Game Connection, qui est un salon plutôt réservé aux professionnels. Donc j'ai pu aussi avoir la possibilité d'y accéder. Donc il faut savoir que la partie Game Connection, c'est vraiment les professionnels qui se rencontrent entre les gens qui vont donner de l'argent, des gens qui veulent un partenariat ou présenter des nouveaux jeux, des nouveaux concepts. Donc beaucoup de concepts papier et démos, à mon avis, puisqu'il y avait beaucoup de présentations visuelles qui étaient présentes. Et il y a aussi, il faut savoir, beaucoup de... Comment dire présentations sur différents éléments comme la VR.
Des démos quoi.
Donc non, pas des démos. la réalité virtuelle, les VR. Reality virtuelle.
Oui, des démonstrations.
Donc voilà. Non, des même présentations.
Ah, des présentations.
C'est ce que je... Donc en fait, des gens étaient là et donc présentaient. C'était une sorte de conférence. Donc c'était en anglais la plupart du temps, ou donc exclusivement en anglais, puisque beaucoup de gens du monde entier, Japon, Espagne. Enfin, j'ai entendu beaucoup de langues différentes, d'italien. Donc du coup,
toute l'Europe s'était réunie à Paris en fait.
Europe et peut-être mondiale, puisque il y avait une personne de Los Angeles, donc EA Los Angeles, qui était venue présenter en fait la culturisation des jeux mobiles à travers le monde en fait.
La culturisation donc, des jeux
tout
mobiles,
à fait.
C'est pas mal ça.
Donc en fait, culturisation veut dire, tout simplement, c'est pas un nom barbare, hein, c'est-à-dire adapter la culture d'un autre pays pour que le jeu soit un peu mieux vu et mieux vendu. Et ils nous ont montré que certaines applications qui sont en top
comme
5...
Comme le McDo finalement.
Non. Donc du coup, le McDo reste McDo, hein, peu importe où tu vas, il reste le McDo. Il y aura peut-être des petits sandwichs différents, mais ça reste le McDo dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de trucs différents. Ce que je te parle, culturisation, c'est-à-dire que tu vas ajouter la culture du pays que tu veux sonder avec des items différents, genre un item temple, un item samouraï ou autre. Mais j'allais y venir, tu m'as un peu devancé. Donc du coup, tu vas donc, ils nous présentaient effectivement donc les top 5 des applications occidentales et les top 5 des applications en Asie. Et en fait, on voit effectivement qu'il y a peut-être deux applications qui ne changent pas beaucoup au niveau item. Et les autres changent énormément au niveau des items. S'ils sont à Taïwan ou la Chine, ils vont changer au niveau culture du pays. Et justement, ce monsieur qui était donc de EA Los Angeles nous présentait en fait Plants vs Zombies version chinois, enfin Asie. Tout simplement. Donc on avait les vieux avec la vieille barbiche en mode zombie, enfin tout un tas d'éléments comme ça, et il expliquait qu'effectivement la communauté occidentale était très avare en termes d'achat applications jeux vidéo. On est à peu près à 5 billards qui est dépensé, donc c'est quand même énorme hein, quand on parle en billards, mais il faut savoir que l'Asie compte à peu près 16 billards. Donc c'est encore le triple quoi, c'est juste énorme. Donc c'est une moyenne, hein. C'est 15 et quelques, mais voilà, c'est une moyenne d'achat.
Faudrait faire le calcul, le rapporter au nombre de personnes, parce que...
Ah bah sûrement, mais en fait,
il montre surtout
que les Asiatiques achètent plus facilement une application et achètent aussi en in-apps. Donc in-apps, j'entends parler, tu sais, les achats directement dans le jeu. Et tandis que chez nous, on préfère des fois avoir l'application gratuite et acheter dans le jeu. Donc en fait, ce que je te parle en 5 billards, c'est juste l'achat in-apps en grande majorité. Tandis qu'en Asie, ils achètent dans le jeu et ils achètent aussi le jeu. Donc c'est...
Ah oui,
ils
oui,
y vont, ils déboursent. Ils sont moins avares, on va dire, en dépenses, mais voilà, ils expliquent qu'en fonction de certaines cultures, ça varie. Donc, très intéressant. Il y avait aussi donc, la réalité virtuelle qui expliquait effectivement le nouveau domaine avec les nouveaux prototypes. On avait le HTC Vive qui était présent, le PSVR, l'Oculus, enfin tous ces nouveaux casques à réalité augmentée.
Ça sent Noël.
Ouais.
Tout à fait. Donc du coup, c'est une zone très très intéressante à part entière quand on est dans le domaine professionnel et qu'on veut effectivement améliorer sa société ou son studio et apprendre de nouvelles astuces. En dehors de ça, donc eux, ils étaient en dessous, c'était les hommes de l'ombre, hein, en dessous du grand salon qui se passait juste au-dessus. Donc il y avait 3 halls qui étaient monopolisés pour la Paris Games Week. Donc c'était assez marrant pour dire hommes de l'ombre puisqu'ils étaient dessous.
Ah oui, pas mal.
Et c'était vraiment le cas, et le mot, parce que je tiens aussi à apporter, on va dire, un point de vue personnel, hein, je maintiens que c'est personnel. Il faut savoir que ce qui a été mis à l'honneur à la Paris Games Week a été l'e-sport. Donc c'est ce qu'on on va traduire Electronic Sports, donc c'est effectivement les jeux électroniques, donc tous les sportifs de jeux électroniques. Je sais que ça, c'est un terme assez rigolo, mais ça en est devenu une sorte de sport, et les gens vont regarder les matchs de jeux qui se passent, donc ça peut être du League of Legends, des MOMA, enfin tout un tas de types de jeux différents, et il y a même maintenant des compétitions de smartphones, donc les Clash of Titans est en version aussi e-sport. Et en fait, ça a été mis à l'honneur. Il faut savoir qu'il y a maintenant un fonds de financement qui a été placé par la ministre du numérique, Axelle Lemaire. Et du coup, en gros, ce qui nous conclut pour nous dire que ben, la France, les créateurs ont leur chien un peu dessus. Littéralement, pour moi, c'est un peu ça.
Super.
On va compter sur les plus gros qui sont Ubisoft, Quantic Dream, et encore Quantic Dream n'est pas non plus un énorme studio. Ils restent quand même petits puisqu'ils font pas énormément de production. Ils produisent genre un jeu tous les 3 ans. On préfère donc financer des gens qui jouent aux jeux vidéo, littéralement, plutôt que des gens qui vont les concevoir. Donc un jour, il y aura peut-être plus de jeux et on se dira, ah ben peut-être, tant pis, ben, c'est pas grave, on continuera à jouer à nos vieux jeux. Enfin,
mais c'est ça, ils remettront voilà. au goût du jour de, dans, bah, non, de, des jeux.
Va, non, mais c'était à un tel point que
on va acheter US comme pour.
Oui,
comme
ils préfèrent
pour,
du Made in ailleurs que du Made in France.
Comme,
donc,
comme pour l'éducation nationale, contre avec Microsoft.
Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu le monde à l'envers. Donc on préférait favoriser des joueurs, donc des gens qui regardent des joueurs, plutôt que des créateurs. On voyait des
comme
troupes.
Comme c'est bizarre.
Des ouais. troupes poursuivre des créateurs. Enfin, des, pas des créateurs, mais des joueurs de jeux vidéo, donc des mecs de l'e-sport ou des youtubeurs. Ouais. Et on avait de l'autre côté des créateurs qui se baladaient tout seuls, qu'on en interpellait même pas pour demander...
J'imagine que toi, à l'inverse, t'étais fan d'eux et t'étais là « Oh mon Dieu, un autographe, s'il vous plaît !»
Non, mais même pas. C'est de là, tu te dis, en fait, il y a un malaise et il y a peut-être une sorte de barème qui n'est pas pris en compte. C'est quand même un salon du jeu vidéo, donc certes, on va mettre tout le monde à l'honneur, mais les créateurs n'étaient pas du tout mis à l'honneur. C'est ouais. ça qui était un petit peu le malaise, je ouais. trouvais. Ce qui est dommage, voilà. Bon, c'est mon petit point à moi retour.
Après, voilà, on est dans un univers mais aussi voilà. consumériste. Hein,
voilà, un univers impitoyable, mais de toute façon, Axel Lemaire était très clair, on financera les gens qui jouent plutôt que les gens qui créent. Voilà, bien. Ce qui est un petit peu c'est un gros bien. Monde à l'envers. Et si un jour elle écoute, ce qui m'étonnerait...
Coucou Axel.
Eh ben, je te dis pas ce que je le fond de ma pensée, voilà.
Et alors, pour, juste, je voudrais savoir par rapport à l'E3.
Oui, alors par rapport à l'E3, ben, si on est allé à l'E3, on n'apprend pas énormément de choses. Ça, c'est un petit peu le bémol. Après, on va pouvoir tester plus facilement les jeux puisqu'ils ont mis énormément de bandes de jeux à disposition. Donc, les gens, il n'y avait pas trop de file d'attente, je trouvais. On attendait en moyenne 20 à 30 minutes. J'ai essayé un jour où il y avait de l'affluence pour voir. Donc, je ne suis pas passée avec mon pass ou autre. J'ai voulu voir comment les gens attendaient dans la file. Et pour jouer un jeu, on a attendu, 20 minutes, une demi-heure, pas plus.
Ah, alors que le 3, tu ne pouvais rien faire.
Le 3, non, c'est particulier. Comme je dis, c'est vraiment un salon dédié aux professionnels. Il y a quelques gens, maintenant, ils l'ouvrent aux particuliers qui peuvent venir de plus en plus. Mais c'est autre chose. Voilà, le 3, c'est quand même autre chose, mais ce qui a été sympa cette année, je disais par rapport à la Paris Games Week, c'est les autres salons où on pouvait pas vraiment tester un jeu, on avait 1 à 2 heures d'attente des fois pour tester un jeu, on dit que là je trouvais que c'était un peu plus humain, voilà, je dirais pas que c'était énorme, mais c'était mieux. Alors sinon on va revenir sur les différents stands qu'il y avait de présents. Donc on avait effectivement le gros stand Ubisoft qui était à l'honneur, entre guillemets, puisqu'ils avaient vraiment présenté beaucoup de jeux. On avait Steep, qui est un jeu évolutif au niveau de tout ce qui est jeux sport, d'hiver en fait, donc snowboard, ski, tout ça.
Il y avait encore des lapins crétins ?
Non. Il y avait du South Park avec le Nozulus, le fameux Nozulus qu'on pouvait tester. Donc,
ça te trouve le cul
Effectivement, c'est le cas. En fait, c'est un appareil que tu mets à l'équivalent des réalités virtuelles. C'était une réalité nosale, donc avec une odeur nauséabonde dedans, où il fallait renifler des pets. Enfin, on en reniflait des pets, voilà. Le parfum de caca charelle, comme on pourrait dire à ce moment-là. Donc du coup, c'était assez rigolo. Il y avait des donc ils ont pu tester effectivement le South Park, il y avait donc For Honor qui est aussi un jeu médiéval qui était présenté donc à l'E3 et donc les gens pouvaient le tester. On avait donc aussi sur le stand de Square Enix Hitman, ils annonçaient les prochains épisodes de Hitman, le prochain Final Fantasy XV qui va bientôt sortir, et on a pu aussi voir en avant-première World of Final Fantasy qui sortait le jour du lancement du stand le 25 octobre, qui est donc découvrir sur PS4, PS Vita, qui est en fait à la manière d'un Pokémon, on doit capturer de nombreux monstres issus des divers épisodes de la série de Final Fantasy. Cool. Sinon, on découvrait aussi des différentes VR, donc PlayStation VR était mis à l'honneur sur le stand de Sony, bien entendu, puisque bon, bah, c'était un peu leur...
Ils veulent que ça se vente. Bah.
Farming Simulator aussi, s'était offert un énorme stand, ce qui m'avait assez surpris. Donc on avait un énorme tracteur en plein milieu avec des vaches et tout.
Trop
bon,
bien.
C'était des fausses vaches, hein, je préfère vous préciser.
Ah, on n'était pas au salon de l'agriculture.
Mais c'était rigolo. Et donc oui, donc pour les halls, on avait un grand hall donc pour l'e-sport, un grand hall pour les juniors, donc les enfants. Et on avait un hall donc tout ce qui était éditeur et constructeur de consoles. Donc Xbox tout petit stand, j'ai trouvé. Il était raccordé un peu à Ubisoft stand, pas très loin, tu vois. C'était un peu tout petit. On avait beaucoup de présentations de jeux. jeu, il y avait 2K, donc avec NBA 2K, enfin tout ça, donc c'est des jeux de basketball. Et on avait divers médias comme jeuxvideo.com et Game One qui étaient présents, une sorte de YouTube Gamer Space où les gens pouvaient aller découvrir leurs stars favorites de YouTube. Ouais. Je mettais des guillemets parce que je trouvais
et
ça.
Et t'as
un
pas
peu,
oublié un voilà. Stand
et y a
un big stand.
Un big stand.
Bah oui, sur deux stands.
Sur deux stands.
Et oui. Et MO5 ?
Ben oui, mais j'allais y venir.
Ah
je crois que tu me parlais d'autre chose, moi. Et donc, oui, pour parler, il y avait aussi un peu de rétro gaming. Donc, il y avait présenté aussi pas mal de bornes disponibles. Donc, on avait effectivement la grande association MO5.com. Donc, tout le monde peut participer, il faut savoir. Oh. Devenir membre permettra donc un jour de pouvoir créer un musée qui va permettre la préservation et la diffusion au public du patrimoine numérique, ce qui est ouais. assez important.
On leur fait d'ailleurs un petit coucou. Hein.
Tout à fait. Et ils étaient avec le Legacy, CoinUp Legacy, donc eux ils font tout ce qui est bande d'arcade. Et il y avait un autre petit stand de rétro gaming qui est donc lui est plus familial, un peu plus une association qui ne va pas te faire financement ou quoi que ce soit, puisque eux ils font ça de manière personnelle. Donc c'était les Nemco Show qui eux récupèrent tout ce qu'ils peuvent trouver, les réparent, les restaurent et les mettent à disposition du grand public quand il y a ce genre d'événement. Ils partagent tout simplement. Le monde du rétro gaming. Voilà.
Ouais.
Ah, c'était sportif.
Et ouais, intense. Merci Anya pour ta présentation.
Voilà, j'ai essayé de broder tout ça.
Et bien maintenant, passons à l'agenda.
Agenda. Alors deux choses. Apéro Lumière Framaforms, un outil de création de formulaires en ligne libre et gratuit. Donc c'est enfin une alternative à Google Forms.
Ouais,
ouais.
Donc, encore venez un chaton.
Ouais, ça fait partie des... Donc venez apprendre à utiliser Framaforms pour créer et diffuser vos formulaires facilement et rapidement. Donc c'est entrée libre le mardi 15 novembre de 12h30 à 14h à la Forge Collective, 8 rue Baudin à Valence, et c'est Bibi qui s'y colle.
Yes, donc c'est toi. Et puis à la soirée data et objets connectés, nouveau trésor de l'industrie ?
Oui, autour d'une keynote et de témoignages d'entrepreneurs, 200 chefs d'entreprise qui innovent vont se donner rendez-vous à Valence pour mieux appréhender les atouts de l'Internet des objets et du Big Data. Il y aura plusieurs interventions, notamment des gens de la CISAR, avec trois objectifs. Donc, rendre concrets les concepts d'objets connectés et d'exploitation des données. Ouais, pardon, j'ai pas voilà,
mettre en avant les compétences et les réussites Merci. Du territoire et favoriser les rencontres entre entreprises du numérique et industrielles d'un même territoire.
Voilà, c'est à l'hôtel du département, donc 26 avenue du Président Herriot à Valence. Sur inscription, on vous mettra les liens sur le blog.
Et passons maintenant à notre dernière rubrique. Madame Irma, que vois-tu dans l'astrologique ?
Je vois. Oh, petit gamer, si l'humanité est née du grand rift américain, qui va naître de l'Oculus Rift américain ? Ah oui, africain.
Cosplay, ça sent mauvais dans votre placard ? Non, ce n'est pas un cadavre d'Halloween, mais vos chaussettes sales.
Makune, tu veux plus qu'on te vole ton iPhone ? Colle-y un autocollant Windows Phone.
Ah bah là, c'est sûr que tu vas le garder. Old school, tiens, ça c'est du jazz moderne. Ah, ils font encore des machines chez l'Omega.
Yomega. Ouais, Yomega. Oui, il y a le zip et puis le jazz.
Bah ouais. Ouais. Les technophiles, j'ai rêvé ou j'ai déjà lancé l'impression ?
Nerds, t'as tweeté sur l'émission de David Pugila et Léa Savaté ?
En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, mais aussi sur Facebook.
Ouh, c'est
Facebook,
mal.
C'est y est, nous avons ouvert notre page qui s'appelle underscore.aaa. Donc vous tapez underscore et .aaa. Parce qu'il n'accepte pas underscore Facebook. Il dit nan,
il faut l'écrire en toutes lettres, quoi.
En voilà. Tout cas, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt, Anya. À très bientôt, MMUMEN. À bientôt, Nico.
Bye bye.
À la prochaine chronique.